À toutes et à tous, il y a une telle tristesse dans vos attitudes ce matin. Des chants glorieux, un moment spécial, un moment bénéfique, et pourtant on sent quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que Jésus est vivant? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que le Christ est vivant en moi? Est-ce qu'il est vivant encore? Ou est-ce que je prends la résurrection comme quelque chose de banal? Je voudrais commencer par quelque chose de spécial ce matin, quelque chose qui ne se fait pas souvent. Il y avait un petit jeune, je ne sais plus comment il s'appelle, Émeric, c'est ça? Émeric, j'aimerais bien qu'il vienne me rencontrer. Alors vous savez, ce matin, je l'ai vu, je l'ai avec son frère de l'autre côté. Et donc, je l'ai un petit peu repris sur un certain nombre de choses qui me semblaient normales. Mais dans mon attitude, dans mon comportement, certainement quelque chose l'a blessé. Et donc, il était en train de pleurer. Je ne le savais pas, son père est venu me le dire. Et j'ai été le voir. Parce que vous savez, lorsque on fait quelque chose, tant qu'on n'a pas les répercussions, on pense qu'on a fait bien. Et c'est pour ça que je voudrais qu'il soit avec moi. Je l'ai appelé, il a été aux toilettes. Parce que je voudrais lui demander pardon, parce que c'est un enfant de l'Église. Et parce que aussi, c'est ça aussi, Pâques, c'est ça le ressuscité. C'est le pardon des offenses. Et quand il arrivera, je m'adresserai à lui. Vous êtes là avec moi ? Ok, mais on va commencer. Aujourd'hui est un jour glorieux. Le but pour moi ce matin, c'est d'affermir, c'est de consolider, de renforcer notre conviction concernant la résurrection du Christ. Et surtout de vivre en nouveauté de vie avec lui. 90% des répondants d'un sondage se disant chrétiens affirment croire à la résurrection du Christ. C'est bien. Cela peut paraître une bonne majorité. Mais ce qui m'intrigue, ce qui m'exaspère, ce sont les autres 10% de chrétiens. Qu'est-ce qu'ils pensent? En quoi pensent-ils? En quoi ils croient vraiment? Il nous faut donc venir à une conviction plus solide, qui nous est propre. Une conviction qui soit basée sur les faits historiques de la Bible, qui sont rapportés par ceux qui ont été des témoins oculaires de ce qui s'est passé. On prétend que toutes les grandes religions de ce monde sont basées d'abord et avant tout sur des systèmes philosophiques, à l'exception de 4 religions qui sont basées plutôt sur une personne. Pourtant, les disciples de Confucius, les disciples de Bouddha, les disciples de Mahomet reconnaissent que leur fondateur respectif est mort, est encore au tombeau. Seuls nous, les disciples de Christ, les disciples de Jésus présentent un tombeau vide pour notre maître. La résurrection historique de Jésus nous place donc dans une catégorie tout à fait unique. Venez avec moi dans l'évangile de Luc. Nous allons prendre les versets 5, 34, 36 à 43 au chapitre 24. Luc chapitre 24, nous prenons le verset 5. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Verset 34, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Verset 36, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. Lui-même, c'est Jésus. Et il leur dit, la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea jusque-là. Et ensuite, le Seigneur va donner une mission à ses disciples. Et plus loin, au verset 50, ce sera l'ascension. Prions. Éternel, ce matin encore, nous sommes devant ton trône de grâce. Nous ne nous lassons jamais d'y venir. Encore plus, encore ces temps-ci, où nous sommes dans cette période de ta résurrection. Mais Seigneur, la résurrection pour moi et pour nous, c'est tous les jours parce que tu es ressuscité, parce que tu n'es plus au tombeau. Et je te remercie ce matin pour ce privilège que tu me donnes d'annoncer ta résurrection. Au nom de Jésus. Amen. La résurrection de Jésus est le cœur du message de l'évangile. Et Paul va résumer notre évangile de ce matin à quatre affirmations en disant « Je vous ai transmis avant tout ce que j'ai aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et surtout, surtout, écoutez bien, il a été vu. Il a été vu par Céphas, puis par les douze. » En Exode chapitre 12, versets 1 à 11, nous voyons que c'est l'Éternel lui-même qui va demander au peuple de rétablir la Pâque. En 2 Rois chapitre 23, verset 21, le roi lui-même va ordonner aussi au peuple de célébrer la Pâque à l'honneur de l'Éternel, comme il est écrit dans le livre de l'Alliance. Puis, à une époque plus proche de la nôtre, Paul nous rappelle en 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, que la Pâque immolée n'est autre que le Christ lui-même. Le jour de Pâques, tout chrétien proclame la victoire de la vie sur la mort, parce que Jésus, le Messie, est ressuscité de la mort afin d'être le vivant pour toujours. Celui qui est mort de mort violente et qui a été crucifié, a été enseveli, celui-là même est le ressuscité. Jésus n'a pas vaincu seulement sa mort, mais la mort, autrement dit, par la mort, il a vaincu la mort. Christ, ressuscité et vivant pour toujours, est la vraie réponse pour ce monde et pour nous-mêmes. Et une fois encore aujourd'hui, comme en ce matin de la résurrection, ce message nous parvient du tombeau vide. Quel est ce message? Écoutez, ne craignez pas, n'ayez pas peur, ne soyez pas dans l'angoisse. Le crucifié est ressuscité et vous précède. Ainsi, frères et sœurs, les chrétiens que nous sommes devons attester devant les hommes que la vie est plus forte que la mort. Comment? Eh bien, en gagnant des âmes pour le Seigneur, lorsque notre jeu se transforme en nous, lorsque nous pardonnons à notre prochain sans demander la réciproque, quand lorsque les autres passent par des moments difficiles et nous réclamons quelque chose, de savoir le pourquoi du comment. La question qu'il faudrait nous poser dans ces cas-là, c'est qu'est-ce que nous faisons ensuite? Qu'est-ce que nous faisons ensuite pour les permettre d'être exhortés, d'être encore dans une dynamique plus performante avec le Seigneur? Oui, c'est aussi lorsque nous réaliserons la justice du Christ qui libère des situations, lorsque nous renoncerons à nous affirmer nous-mêmes sans les autres ou sans eux ou contre eux. Nous le ferons enfin, frères et sœurs, lorsque nous donnerons nos vies librement, par amour, jusqu'à prier pour nos ennemis. C'est ça, tout ça, le Christ. C'est ça, tout ça, le ressuscité. Le sacrifice de notre Seigneur Jésus sur la croix est plus grand et plus parfait. C'est le plus grand et le plus parfait sacrifice de tous les temps. Plus grand parce que la victime, Jésus lui-même, est plus grand que tout. Il est le Dieu créateur, le Tout-Puissant. Plus grand parce qu'il ne nous libère pas seulement de la main d'un tyran, mais de la puissance de Satan. Plus grand parce qu'il nous livre, non de la mort terrestre, il nous délivre non de la mort terrestre, mais de la mort éternelle que nous méritions tous à cause de nos péchés. Son sang nous a purifiés de nos péchés, nous a purifiés, nous a lavés de toute iniquité. Le cœur, frères et sœurs, chers amis visiteurs, le cœur de la foi chrétienne se situe là précisément. Croire l'incroyable, aimer le non aimable, espérer contre toute espérance. Oui, la foi, l'espérance et l'amour sont possibles seulement si l'on croit à la résurrection du Christ. Alors vraiment, notre dernier mot ne sera pas la mort ni l'enfer, mais la victoire sur la mort et sur l'enfer. La Pâque, vous savez, ouvre pour tous l'horizon de la vie éternelle. Alors oui, que cette Pâque soit notre Pâque d'espérance pour chacun de nous. Plus grand parce qu'il ne sauve pas seulement un homme, mais il sauve tous ceux qui croient, quiconque met sa confiance dans le Christ ressuscité et qui a accompli ce grand sacrifice immense qui s'est donné pour nous tous. C'est Jésus, le Fils de Dieu. La Bible dit en Romains 5, 7, « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. » Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Y a-t-il un plus grand amour que celui-ci? L'amour de Dieu qui a donné son Fils unique à la croix. L'amour de Jésus, l'amour de Dieu qui s'offre lui-même en sacrifice sous la croix, donnant sa vie pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Mais vous savez, avant d'être le ressuscité, notre Seigneur a vécu un nombre incalculable d'humiliations. Et nous, lorsque nous sommes livrés à ne serait-ce qu'une feuille d'impôt trop élevée, nous pensons que le ciel nous a abandonnés. Écoutez. Livré par un des siens, rogné par un des siens, abandonné par ses disciples. On lui a craché dessus, frappé comme une bête féroce. Il a été couronné d'épines, subi la cruelle flagellation romaine, marché jusqu'au lieu de la crucifixion en portant sa croix. Et trois jours après, il a expiré. Vous savez, le cri que Christ a laissé échapper sur la croix, ce n'est pas un cri de désolation, ce n'est pas un cri de désespoir, c'est un cri de victoire. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le voile s'est déchiré en deux, donnant accès à tout homme à la grâce et à la paix du Seigneur. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on l'a mis dans un sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Savez-vous combien de procès que notre Seigneur a subi dans ses humiliations où il a passé la veille sans dormir? Savez-vous combien de procès? Est-ce que quelqu'un ce matin peut me dire combien de procès que le Christ a subi? Personne. Six procès au total. Six procès, trois religieux, devant Anne en Jean chapitre 18, devant le Caïphe en Matthieu chapitre 26, le Sanhédrin, Matthieu chapitre 27, et trois procès civils, devant Pilate premièrement en Jean chapitre 18, devant Hérode en Luc chapitre 23, et puis encore devant ce Pilate en Matthieu chapitre 39. Mais le Christ est ressuscité. Le Christ est tout de même et réellement ressuscité. Que nous dit l'évangile de ce matin de Pâques, Marie de Magdalène se rend au tombeau alors qu'il fait sombre. Elle est pleine d'amour pour le Seigneur et aussi pleine de souffrance et de douleur. En arrivant au tombeau, elle a une surprise, la pierre qui fermait le tombeau a été enlevée. Elle se précipite pour chercher Simon-Pierre et l'autre disciple. Elle pensait que le corps de Jésus avait été dérobé. On a enlevé mon Seigneur de son tombeau et je ne sais pas où on l'a mis. Tout le passage de l'évangile veut faire saisir que la résurrection est vraiment inattendue pour les disciples eux-mêmes. Ils pensaient que la mort de Jésus avait mis fin à son action, car ils n'avaient pas encore saisi ce que Jésus leur avait annoncé sous la résurrection. Pierre et le disciple que Jésus aimait courent vers le tombeau, étonnés de la nouvelle. Ils entrent dans le tombeau, d'abord Pierre et ensuite l'autre. Ils constatent que le tombeau est vide. Plus tard, Marie de Magdalène, qui est restée là à pleurer, rencontre le ressuscité. L'avez-vous rencontré? Avez-vous ce matin rencontré le ressuscité? Avez-vous rencontré le Christ, celui qui donne la vie, celui qui nous donne la vie éternelle? Marie de Magdalène rencontre, fait cette première rencontre et elle sera la première à annoncer la résurrection. Le soir même de ce même jour, Jésus ressuscité apparaîtra à tous les disciples réunis ensemble, ainsi qu'aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs et d'autres fois encore. Frères et sœurs, la foi en la résurrection est au cœur de la foi chrétienne. Elle est le fondement. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre message est vide et votre foi est vaine. Si le Christ n'est pas ressuscité, frères et sœurs, que faisons-nous ici ce matin? Que faisons-nous ici? Eh bien, oui, le Christ est vivant. Le Christ est ressuscité. Et c'est pour cela que nous lui disons merci. Merci au Père qui nous a envoyé son Fils. Il n'a pas hésité un seul instant à quitter son trône de gloire pour venir mourir pour des pécheurs comme nous et nous donner la vie éternelle. Si nous supprimons la foi en la résurrection, alors le message de l'évangile est sans fondement et pas digne d'attention et deviendra tout simplement une conception religieuse du monde et parmi tant d'autres. Frères et sœurs, la résurrection du Christ n'est pas objet d'opinion. La résurrection du Christ n'est pas objet d'opinion. Elle est le fondement même de la foi chrétienne. La résurrection du Christ est un événement qui bouleverse l'histoire de l'humanité. Notre foi repose sous le témoignage des apôtres et des premiers disciples. Ils se sont retrouvés face à un événement qui, pour eux-mêmes, était totalement nouveau, au-delà de l'horizon de leurs expériences. La réalité de ce qui est arrivé les a profondément bouleversés, au point qu'ils ne peuvent ne pas en témoigner. Et nous aussi qui avons rencontré le Christ ressuscité, nous ne pouvons pas rester la bouche fermée. Nous devons témoigner le Christ vivant, le Christ ressuscité. Oui, ensuite la vie des disciples a été bouleversée, mais modifiée. Ils y ont jusqu'au martyr pour témoigner de cet événement. Des millions et des millions d'hommes et de femmes donneront leur vie au cours des siècles parce qu'ils ont mystérieusement rencontré durant leur vie le Christ ressuscité, le vivant de toujours. La résurrection de Jésus n'est pas un simple miracle d'un cadavre réanimé. Cela n'a pas d'intérêt réel. La résurrection de Jésus est d'un autre ordre que la résurrection de Lazare qui nous est rapporté dans l'évangile. Car dans ce cas précis de Lazare, il s'agit d'un retour à la vie qui n'empêchera pas Lazare de mourir ensuite. Tandis que le Christ est né, mort et ressuscité et vivant pour toujours. Pour les apôtres, cela était complètement inattendu et pour nous aussi bouleversant. Ils l'ont rencontré, le ressuscité, et ils sont complètement dépassés. Pourtant, ils l'ont vu, ils lui ont parlé, ils l'ont touché. Et même s'il n'appartient plus au monde de ce qui est normalement touchable aujourd'hui, Jésus le ressuscité est présent et vivant de manière considérablement et constamment dans nos vies aujourd'hui. Quelque chose qui dépasse toute expérience, bien sûr, et qui est cependant présent de manière absolument réelle. Et vous, ce matin, croyez-vous en la résurrection du Christ? Croyez-vous vraiment que Jésus est ressuscité d'entre les morts? Alors, ou il est ressuscité ou il ne l'est pas. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas d'intermédiaire. Soit le Christ est ressuscité et vous y croyez, soit le Christ n'est pas ressuscité et vous pouvez partir tout de suite. Mais nous ici, dans notre église d'Argenteuil, nous croyons que le Christ est vivant et ressuscité. Par notre baptême, pour ceux qui ont été baptisés en Christ, nous avons été plongés. Et d'ailleurs, ceux qui vont passer par les eaux du baptême bientôt vont connaître cette expérience. Plongés dans la mort et la résurrection du Christ, l'apôtre Paul nous dit avec force et détermination, vous êtes ressuscités avec le Christ. Recherchez les réalités d'en haut. Tendez vers les réalités d'en haut. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne s'agit pas de fuir le monde. Il s'agit d'une manière de vivre, d'une autre manière de vivre. Il s'agit de laisser se déployer en nous la vie nouvelle du Christ et tendre à correspondre au don qui nous est fait ce matin, le don de la résurrection du Christ en cette période de Pâques. Laissons-nous, frères et sœurs, chers amis, transformer par la puissance de la résurrection du Christ. Ce n'est pas seulement l'espérance d'une vie après la mort, mais c'est naître de nouveau pour employer l'expression même du Christ. Dans ses lettres, l'apôtre Paul insiste sur cette vie nouvelle. Il dit qu'il nous faut revêtir l'homme nouveau, nous revêtir de l'amour, nous enraciner, nous fonder en lui. Il n'est pas question de ne pas vivre la vie ordinaire, mais de la vivre autrement, de la vivre avec le Christ. Il n'est pas question de tout laisser, de tout abandonner. Au moment où beaucoup de contemporains sont désorientés par les bouleversements de notre société, où sont dans l'inquiétude et l'incertitude face à l'avenir, nous, les chrétiens, nous témoignons que le Christ est ressuscité, est présent. Notre avenir et notre espérance est dans sa main. Ayons confiance en Dieu. Il n'abandonne jamais son peuple. Celui qui a vraiment rencontré le Christ ressuscité ne peut le garder pour lui-même. Est-ce que le Christ est vraiment ressuscité? Est-ce qu'il est vraiment le ressuscité de votre vie? Alors, vous me direz ce matin, oui, mais quelle preuve que tu as pour annoncer ces choses? Nous avons la Bible, c'est vrai, mais quelle preuve que tu as annoncé dans la Bible ces choses? Eh bien, laissez-moi vous dire ce matin que aucun fait n'est établi par autant d'auteurs inspirés et de témoins que la résurrection du Seigneur. Après les 3 jours passés dans le tombeau, preuve de la réalité de sa mort, le Seigneur est resté 40 jours avec ses disciples pour leur apporter les preuves assurées de sa résurrection. Vous pouvez le lire en Actes chapitre 1, verset 3. Les disciples n'ont pas été victimes. Non, ils n'ont pas été victimes d'illusions ou de leur imagination. Car aucun d'eux n'a cherché le ressusciter, bien que Jésus leur eût annoncé qu'il ressusciterait le troisième jour. Et il semble bien que les ennemis de Christ avaient retenu cette parole mieux que les disciples, parce qu'ils avaient prévu de garder le tombeau, de mettre des gardes pour garder le tombeau, pour empêcher cette résurrection. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu est capable de faire des choses inexplicables aux hommes. Dieu l'a ressuscité et notre Christ est vivant et ressuscité pour toujours. Il a fallu, comme le pasteur disait tout à l'heure, un travail en profondeur dans le cœur des disciples pour que s'impose à eux cette conviction inébranlable de la résurrection du Christ. Durant les 40 jours séparant la résurrection de l'ascension, Jésus ne s'est jamais montré au monde, mais il s'est présenté à plusieurs reprises et de différentes manières. Il était seul avec Marie dans le jardin du sépulcre et avec les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il s'est présenté à ses disciples dans une chambre forte dont les portes étaient fermées. La parole de Dieu mentionne plusieurs apparitions du Seigneur. Le jour de la résurrection, à Marie de Magdala, en Marc chapitre 16. Aux femmes revenant du sépulcre, Matthieu chapitre 28. À Pierre, en Luc chapitre 24. Aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, Marc chapitre 16. Aux dix apôtres, en l'absence de Thomas, parce que ce Thomas, il ne voulait pas croire. Et vous savez, lorsqu'il s'est présenté aux dix apôtres à ce moment-là, en Luc chapitre 24 et Jean chapitre 20, Judas s'était déjà suicidé. Pendant les 40 jours, il se présente encore aux 11 apôtres. Thomas compris à ce moment-là. Vous pouvez le lire en 1 Corinthiens 15, 5, Jean chapitre 20, 26. Il se présente à 7 disciples au lac, sur le bord du lac de Tibériade, dans Jean chapitre 21. Aux 11 disciples sous la montagne en Galilée, Matthieu chapitre 28. À plus de 500 frères. Alors, si là, il n'y a pas un nombre incalculable de témoins oculaires, quelle preuve encore avons-nous besoin pour croire en la résurrection du Christ? À Jacques, le frère du Seigneur, en 1 Corinthiens chapitre 15, 7, aux apôtres et aux disciples sur le mont des Oliviers, avant son ascension, bien sûr. Et après son élévation dans le ciel, il s'est présenté à Étienne avant qu'il soit lapidé. Acte chapitre 7. À Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Pourquoi me persécutes-tu? À Jean sur l'île de Patmos. La prochaine apparition de notre Seigneur aura lieu lors de son retour pour venir nous chercher, nous les siens, ceux qui ont placé leur confiance totale, pleine en lui. Et vous savez, à vous qui ne croyez pas à la résurrection ou qui ne savent pas si le Seigneur est le maître de leur vie, peut-être que vous êtes là ce matin. Ce matin encore, la voix du Seigneur, la voix du Fils de Dieu s'adresse à vous. Nous avons lu en vérité, je vous le dis, que l'heure vient et elle est maintenant que les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'ont entendu vivront. Alors, cette heure de la grâce dans laquelle la voix du Fils de Dieu parle à ceux qui sont morts spirituellement commençait déjà à prendre et elle dure encore. Le temps de la grâce n'est pas terminé. Celui qui entend cette voix et qui l'écoute vivra. Celui qui ne l'écoute point reste dans la mort. Tous ceux qui sont réunis ce matin sont d'un côté ou de l'autre. Ils sont soit sauvés, soit perdus, soit vivants ou encore morts. Il n'y a pas ici d'échappatoire, pas de terrain neutre. Mais la voix du Fils de Dieu parle encore en grâce. Viens à moi ce matin. Âme fatiguée et chargée, je vous donne du repos. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Soupires-tu après cette paix? Soupires-tu après le Christ? Désires-tu la rédemption et le pardon? Parce qu'en lui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Désires-tu la vérité? Il est la vérité. As-tu soif de connaissance et de savoir? En lui, tu trouveras tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Écoute donc la voix du Fils de Dieu ce matin. Certainement, si tu endurcis ton cœur comme Pharaon, si tu fermes les oreilles, eh bien, tu devras porter les conséquences de tout cela. Prenez garde encore à ceci. Au jour du jugement, on ne dira plus « Celui qui veut, vienne ». Non, à cette heure-là, tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu. Qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, ils entendront et devront suivre cet appel. Certaines personnes qui se disent athées pour fuir le jugement de Dieu, eh bien, se font incinérer. Eh bien non, ils n'échapperont pas à cela non plus. Parce que même la mort, même la mer devra rejeter ses morts. Même les mères devront rejeter leur mort. À nous qui avons le Christ et qui croyons dans la résurrection, eh bien, à nous, nous avons cette espérance d'être avec notre Seigneur, d'être dans la félicité. Parce que pourquoi? Parce qu'il nous l'a dit en Jean chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place lorsque je m'en serai allé.
Vous savez où je vais. Jésus, le Christ, le Sauveur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Fils de Dieu, est réellement, frères et sœurs, ressuscité et bien vivant parmi nous. Pâques proclame que la peur, la terreur et la mort ne sont pas la fin de l'histoire. Pour nous tous, devant le tombeau vide, quelles que soient les circonstances, il y a une espérance insondable, le Christ ressuscité. Il y a de l'espérance pour ceux qui se trouvent dans les périphéries de la société, de l'espérance pour les gouvernements et leurs dirigeants, de l'espérance pour l'Église en ce temps de purification et de renouveau, et de l'espérance pour vous, tout comme moi, parce que nous croyons que notre Seigneur est ressuscité. Alors, je vous propose ce matin d'accueillir le Christ ressuscité, notre Pâques, et que le Seigneur vous fortifie et vous dirige. Amen. Amen.